Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce de pouvoir vous retrouver encore ce jour pour partager la parole de Dieu, autour de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous sommes plus spirituels, ce n'est pas parce que nous sommes plus excellents que Dieu a ouvert certaines portes, c'est simplement que Dieu nous a fait grâce. Et nous voulons profiter de cette grâce au maximum. C'est une manière aussi de vous dire, de vous inviter à profiter de la grâce de Dieu au maximum. Car tant qu'il est jour, travaillons. Beaucoup auraient voulu entendre l'Évangile aujourd'hui. Beaucoup auraient voulu avoir l'opportunité de se repentir aujourd'hui. Mais malheureusement, ils n'ont pas cette opportunité. Mais vous et moi, Dieu nous donne cette possibilité, cette grâce, aujourd'hui encore. Depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier sur « Tu aimeras ton prochain ». Aujourd'hui, c'est notre 8e émission. Mais avant de commencer cette 8e émission, je voudrais que nous prions pour rendre gloire à Dieu. Car c'est une grâce, nous ne le méritons pas. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour ta disponibilité, Seigneur. Merci pour tous ces partenaires qui sont autour de notre ministère, qui nous soutiennent par la prière, matériellement, financièrement, par des partenariats, Seigneur, nous te disons merci. Aujourd'hui, nous voyons le fruit de nos prières, le fruit de beaucoup d'années de prière, Seigneur. C'est parce que tu as fait grâce, que tu as permis. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons encore parler sur... Tu aimeras ton prochain. Seigneur, aide-nous à comprendre, aide-nous à nous façonner, aide-nous à nous modeler. Nous ne sommes pas meilleurs. C'est toi qui es le parfait. Aide-nous, rends-nous comme toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Tu aimeras ton prochain. Luc 10, versets 27 à 36. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Pardon, c'est le docteur qui disait tu aimeras le Seigneur. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent et le sang à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce chemin, dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? » C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi fais de même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une discussion commence entre un docteur de la loi et Jésus-Christ. Le monsieur veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Jésus lui dit, « Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans le Saint-Livre ?» Et le monsieur répondra, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Bref, l'amour. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Nous avons dit que aimer son prochain consistait à s'identifier à son prochain, à se retrouver dans son prochain. Nous avons dit que le prochain pouvait être un blanc, un noir, pouvait être un Français, un Belge, pouvait être un Américain, un Sud-Américain, pouvait être un Asiatique. Bref, notre prochain, ce sont ces hommes et ces femmes que nous croisons dans notre vie de tous les jours. Ça peut être mon collègue de travail, ça peut être mon subalterne, ça peut être mon supérieur, ça peut être celui simplement qui ouvre la porte lorsque je passe, le huissier, ça peut être le facteur, ça peut être le chauffeur de taxi, ça peut être mon employé de maison, ça peut être le fils de mon employé. Mon prochain, c'est celui ou celle que je croise dans ma vie de tous les jours. Et Jésus nous demande de nous identifier à ces personnes-là. Ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi, que je le fasse aussi aux autres. Et ce docteur, pour se justifier, dit, mais c'est qui mon prochain? Alors Jésus raconte une histoire, parle d'une parabole. Rappelons-nous toujours qu'une parabole est un enseignement spirituel illustré avec les choses de tous les jours. Donc une parabole peut très bien s'appliquer aux inconvertis comme aux convertis. Donc cette parabole peut s'appliquer aussi au monde dit chrétien. Vous êtes chrétien, Jésus-Christ peut appliquer cette parabole à chacun d'entre nous. Nous pouvons appliquer cette parabole dans notre vie. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus veut nous faire ressentir l'aspect de l'amour dans cette parabole. Il veut nous montrer qui est notre prochain. Ce n'est pas parce que nous sommes pasteurs que forcément nous aurons de l'amour pour notre prochain. Ce n'est pas parce que nous sommes évangélistes, prédicateurs de l'évangile, diacres dans l'église, anciens dans l'église. Non. Ce n'est pas parce qu'on occupe ces fonctions dans l'église qu'on est plus spirituel ou qu'on a un degré de maturité spirituelle très élevé. Non. Nous le voyons. Ce sont des hommes de loi, le sacrificateur et le lévite, qui passent outre, qui ne veulent pas porter assistance à quelqu'un qui est en danger. Ils s'en fichent complètement. L'aspect que je voudrais ressortir aujourd'hui sur la parabole du Samaritain est l'aspect de l'humilité. Il nous est dit que c'était un voyageur, un Samaritain qui voyageait. Il était sur une monture. Certainement un cheval, peut-être un âne, mais peut-être un cheval. La Bible n'est pas très claire dessus. Mais il nous est dit que cet homme, pour porter assistance à cette personne qui s'est retrouvée dépouillée par des brigands, devait descendre de son cheval. Il devait quitter sa position et se rabaisser au niveau de la personne qui est blessée. C'est l'humilité. Celui qui prétend aimer son prochain doit exprimer dans sa vie de tous les jours de l'humilité envers son prochain. L'humilité est une preuve d'amour envers son prochain. Sans humilité, il n'y a pas d'amour. Ce Samaritain descend de sa monture. Ce n'était pas un homme ordinaire, ce n'était pas un homme commun, un homme de tous les jours. C'était certainement un homme très riche, un homme d'un haut rang au niveau des Samaritains. Il s'est humilié pour porter assistance. Il s'est rabaissé pour venir en aide à cette personne. Nous rencontrons dans notre vie de tous les jours des gens qui n'ont peut-être pas le même niveau de foi, qui n'ont peut-être pas le même niveau intellectuel que nous, qui n'ont peut-être pas le même niveau de rang social. Mais si nous voulons leur prouver notre amour, nous devons nous humilier devant eux. Ils sont peut-être moins intelligents que nous, mais il n'est pas dit forcément qu'ils ont toujours tort dans ce qu'ils disent. Ils ne sont pas forcément aussi riches que nous, mais il n'est pas dit forcément qu'ils ne peuvent pas nous assister. Nous devons nous humilier dans notre vie de tous les jours face à notre prochain. Peut-être que vous avez un patron, un supérieur, moins gradé que vous, mais c'est votre patron. Peut-être que vous êtes sous l'autorité d'un jeune homme, d'un homme ou d'une femme moins âgée que vous. Votre preuve d'amour envers cette personne est de vous humilier. que des conflits de génération, parce que celui qui est en dessous de moi est plus âgé, il veut me prouver que je n'ai pas le droit, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas la capacité de diriger quoi que ce soit, et ça crée des confusions, ça crée des étincelles, des chocs. Quelqu'un parlerait même de chocs de génération. Lui et moi, nous devons nous prouver notre amour mutuel en nous humiliant l'un sous l'autre. Philippiens 2, verset 3, nous dit ceci. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que l'humilité, qui est une partie du fruit du Saint-Esprit, nous fasse regarder les autres. Les autres, c'est qui? C'est mon pasteur. Les autres, c'est qui? C'est mon subalterne. Les autres, c'est qui? C'est le président de la République. Les autres, c'est qui? C'est mon employé de maison. C'est mon collègue de travail, celui qui a le même rang que moi. Les autres, c'est qui? C'est le diacre dans l'église, c'est un autre évangéliste, c'est un autre pasteur, c'est ma femme, ce sont mes enfants, ce sont mes frères, mes jeunes frères, mes frères d'une autre mère, mes frères et sœurs d'une autre mère, peut-être mes frères et sœurs d'un autre père. L'apôtre Paul nous recommande de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Comment ? Que chacun de vous, verset 4, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'humilité doit nous pousser à chercher d'abord les intérêts des autres. Est-ce que l'autre gagne dans ce que je fais? L'humilité doit nous pousser à regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Pas forcément pour qu'ils nous écrasent. Pas forcément pour qu'il nous dénigre, non. Mais la même attitude que j'aurai face à mon supérieur, je dois l'avoir face à mon subalterne ou à celui qui est du même rang que moi. Donc quand je l'écoute avec attention. Donc quand je lui parle avec respect. Quand je lui parle avec amour. Il n'est point nécessaire de le crier dessus. Il n'est point nécessaire de l'humilier devant les autres. Il n'est point nécessaire de le rabaisser. S'il fait quelque chose de mal, il faut le prendre à part et lui faire la remarque. Je dois regarder les autres comme étant au-dessus de moi, comme ayant une plus grande valeur que la mienne. Dans Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13, il nous est dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour ou par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son prochain doit aussi exprimer dans sa manière de vivre, doit se rendre serviteur. Il est grand, il est supérieur, c'est mon égal, mais nous devons nous rendre serviteurs des autres. Serviteurs les uns des autres, nous rendre mutuellement service. Ce n'est pas mon problème si les autres ne veulent pas me rendre service. Ce n'est pas mon problème si les autres ne veulent pas m'accompagner, ne veulent pas me faire du bien. Mais moi, ce que Jésus me demande, c'est d'être le serviteur des autres. Porter assistance aux autres. Sans rien demander en retour. Je ne rends pas service pour qu'on puisse me rendre service. Je ne rends pas, je ne fais pas plaisir aux autres pour qu'on puisse me faire plaisir aussi. Je ne prête pas pour qu'on puisse me prêter. Je ne donne pas pour qu'un jour on puisse me donner. Non. Nous devons être serviteurs des uns des autres. Si les autres ne veulent pas être mon serviteur, ça c'est pas mon problème. Mais ce que moi, Jésus-Christ, me demande, c'est d'être serviteur des autres. Je ne serai pas jugé devant le tribunal de Christ pour les attitudes des autres envers moi. Non, je serai jugé devant le tribunal de Christ pour ma réaction face aux attitudes des autres. Ma manière de réagir quand les autres me font quelque chose. C'est pour cela que moi je serai jugé. Mais rendez-vous par l'amour ou par la charité serviteurs les uns des autres. L'humilité, qui est une partie du fruit du Saint-Esprit, nous va nous assister dans cette tâche, nous aider à voir les autres plus grands, plus importants, prioritaires dans notre vie. Ce que l'autre pense, ce que l'autre demande, ce que l'autre désire, doit être l'objet de ma quête de bonheur pour lui, si je puis dire, de ma quête de bonheur ou de joie pour lui. Bien sûr, nous ne ferons pas n'importe quoi. Nous resterons dans le cadre de la parole de Dieu. Je tiens à le préciser. C'est pas parce qu'un homme veut vouloir, un homme ou une femme veut vouloir coucher avec moi, que bon, je vais dire, bon, le Seigneur a dit, nous devons nous aimer les uns les autres et que je dois être son serviteur, donc je vais accepter. Non. Nous restons dans le cadre de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un me demande d'aller voler quelque chose chez un autre, sous prétexte que ça serait lui rendre service que je vais le faire. Non, nous restons dans le cadre de la parole de Dieu, dans le cadre des commandements de Dieu et de ce qui est bien, de ce qui est juste, approuvé par Dieu. Je ne parle pas de faire n'importe quoi. Attention. Sous prétexte que nous parlons d'amour, que nous allons faire n'importe quoi. Non, 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 ce n'est pas ça dont nous sommes en train de parler. L'amour consiste à garder la parole de Dieu, à s'identifier dans le prochain, de ne pas le faire de mal. Donc, si quelqu'un me demande de faire quelque chose qui va faire du mal à un autre, ce n'est pas de l'amour. Si quelqu'un me demande de commettre un meurtre, ce qui veut dire que je rends service à celui qui me demande de commettre un meurtre, mais qui veut dire que je fais du mal à quelqu'un d'autre, ce n'est pas de l'amour. Rendons-nous serviteurs les uns les autres. Et le fruit de l'amour et l'amour, l'humilité qui est un fruit de l'amour, va nous assister à nous humilier, à nous rabaisser. Dans Philippiens 2, verset 7, il nous est dit ceci. Philippiens 2, verset 7. S'étant dépouillé lui-même, il s'agit de Jésus, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est le serviteur par excellence. L'homme le plus humble que l'humanité ait connu. Et pourtant, il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des choses invisibles. Mais par amour pour nous, donc on va dire par amour pour son prochain, Jésus-Christ s'est humilié en prenant d'abord la forme d'un serviteur, d'un homme, et en devenant serviteur des hommes. Il est devenu aussi le sacrifice pour le salut des hommes. Il a accepté de mourir sur la croix, la mort la plus humiliante, la mort la plus rabaissante, la mort la plus, je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser, celle qui était réservée aux brigands, comme s'il était un brigand. En fait, Jésus-Christ a pris notre place. Il s'est humilié en prenant notre place. Écoutez, si le roi des rois, le seigneur des seigneurs, n'a pas hésité à être serviteur des autres, pourquoi est-ce que moi, Raphaël, j'aurais du mal ou j'hésiterais à devenir le serviteur des autres? Pourquoi, si le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, n'a pas hésité à se sacrifier pour les autres, pourquoi est-ce que moi je devrais hésiter à me sacrifier pour les autres? Ça ne devrait pas être ainsi parmi le peuple de Dieu. Vous occupez peut-être une fonction de président de la République, une fonction de premier ministre, une fonction de gouverneur, une fonction de bourgmestre, de maire, de ministre dans un gouvernement, de responsable dans une entreprise. Nous devons toujours nous rappeler qu'il y a plus grand que nous, c'est-à-dire Dieu, et qui n'a pas hésité à s'humilier pour être serviteur. Nous le voyons, Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Nous le voyons, Jésus-Christ, lorsqu'on lui demandait un service, il ne refusait pas. Viens, tu vas guérir ma fille, qui est sur le point de mourir. Jésus partait. Ah, je voudrais te demander un conseil. Jésus n'hésitait pas à donner des conseils. Je voudrais te demander un conseil. Ceux qui demandaient des conseils auprès de Jésus, Jésus n'hésitait pas. Quand on avait besoin de Jésus-Christ, Jésus-Christ allait. Je n'ai pas lu dans la Bible quelque part où Jésus-Christ a refusé un service. Tant que ça restait conforme à la parole de Dieu, j'insiste encore, Jésus-Christ n'a pas refusé de rendre service. Jésus-Christ a pris soin de ses brebis. Jésus-Christ a pris soin de ses premiers disciples, comme il a toujours pris soin jusqu'à aujourd'hui, de tous ses disciples. Il est le Dieu, il est le Maître, mais il n'a pas hésité à prendre la place du serviteur chaque jour de sa vie lorsqu'il était ici sur terre. Il n'a pas hésité à nous servir de sacrifice, pour moi et pour vous. Alors pourquoi devions-nous hésiter à servir les autres? Il a tout fait pour la gloire de Dieu. Une personne qui marche dans l'humilité cherche la gloire de Dieu dans ce qu'il fait. 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans notre humilité, nous devons chercher la gloire de Dieu. En fait, qu'est-ce que Dieu gagne d'abord dans ce que je fais et qu'est-ce que mon prochain gagne dans ce que je fais? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce qu'a fait ce Samaritain lorsqu'il est descendu de son cheval. Il s'est humilié. Quelqu'un, il ne le connaissait pas, il ne connaissait pas cette personne. Il a vu blessé, il a vu inconscient. Il aurait pu passer comme le sacrificateur, comme le lévite. Qu'est-ce que ça aurait changé? Personne n'aurait su. Mais il a accepté de s'humilier, il a accepté de descendre. Il a accepté de s'identifier, il a accepté de que l'autre prenne sa place. Et que lui souffre un peu de temps, du moment que ça pouvait soulager la souffrance de son prochain. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ qui est Dieu n'a pas hésité à s'humilier, à servir les hommes. Nous aussi, nous ne devons pas hésiter à nous humilier et à servir les hommes. Nous devons regarder les autres comme supérieurs à nous. Dans la remarque que nous faisons, dans la manière dont nous les dirigeons, dans la manière dont nous les conduisons. Qu'ils soient plus intelligents ou moins intelligents, qu'ils soient plus âgés ou moins âgés, qu'ils soient plus riches ou moins riches, ça n'a pas d'importance. Quand nous dirigeons les autres, nous devons nous humilier en sachant que nous devons les mettre au-dessus de nous, dans la manière de faire la remarque, dans la manière de les conduire. Sinon, nous ne serons pas une preuve d'amour de Jésus-Christ envers les autres. Mon frère, ma sœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ce message vous a touché aujourd'hui, si ce message vous a rappelé à l'ordre, rappelez-vous ceci, que cet enseignement n'est pas pour vous condamner, mais pour vous aider à vous redresser, pour vous aider à vous relever. Et si vous voulez demander pardon à Jésus-Christ, baissons simplement la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande pardon. Pardon parce que je me suis cru au-dessus des autres. Pardon parce que je me suis cru supérieur aux autres. Pardon parce que j'ai dénigré ceux qui sont en dessous de moi. Je n'ai pas été humble et je te demande pardon. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, purifie-moi avec ton sang. Lave-moi avec ton sang. Je te demande pardon. Je crois que maintenant, je suis lavé, justifié avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je m'engage maintenant à marcher conformément à la parole de Dieu, à considérer les autres comme étant au-dessus de moi, à considérer les autres comme étant supérieurs à ma propre personne, peu importe leur titre, peu importe leur niveau social. Merci Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses passées sont effacées et oubliées devant Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est couvert par le sang de Jésus-Christ. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être dirigé vers une église vivante, basée sur la parole de Dieu, si vous avez besoin de réécouter ce message, si vous voulez connaître les heures de diffusion sur votre radio préférée, vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au plus 243 819 910 910. Je répète, au plus 243 819 910 910. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Je suis Raphaël Mambo. Nous nous retrouvons la fois prochaine sur le même thème. Tu aimeras ton prochain. Que Jésus continue de vous garder, que Jésus continue de vous bénir. À la fois prochaine. Amen.